L'antenne, et oui, donc Narbonne Union Sportive Bressane, le dernier voyage Bressan à Narbonne en Pro D2, avait été soldé par une défaite sur le fil. Hein, on avait failli gagner après avoir mené. Après donc un essai, enfin donc suite à une percée d'Alexandre Ducrozet, c'est déjà assez vieux. Et puis assez ancien, dirons-nous, reculé dans le temps. Voilà. Et pour l'instant, ce sont les Narbonnais qui ont engagés, et ces Narbonnais se sont installés dans le camp Bressan avec notamment donc un jeu dans l'axe des poteaux, un jeu au sol qu'on est en train de contester, mais ils ont pu sauver le ballon donc à la limite hein, de la régularité. Et donc ils font circuler ce ballon maintenant vers leur centre Smith qui a échappé Anguille, mais qui a été pris ensuite. Et donc ça permet aux joueurs narbonnais, en reculant, puisqu'ils ont reculé jusqu'aux 40 mètres, de faire quelques percussions. Donc la défense bressane, déjà en place sur ce début de partie, ils font recirculer le ballon avec un plaquage bressan sur les 50 mètres. Autant dire que pour l'instant, la défense bressane prend l'ascendant sur l'attaque narbonnaise, au point que les Narbonnais tapent une chandelle avec une bonne réception de Nelson, là, à 30 mètres dans l'axe de ses poteaux, ballon ralenti au sol. Tito Anguillon, de titularisé, donc peut transmettre à Hugo Dupont qui fait circuler ce ballon vers ses trois quarts. Avant, un ballon ralenti au sol, une percussion de Jimmy Arias. Et puis on peut faire recirculer ce ballon donc avec de nouvelles percussions pour essayer pour l'instant donc de resserrer la défense narbonnaise. Néanmoins, les Bressans avancent, sont pas encore sortis des 50 mètres, mais s'en rapprochent, même si là, sur la passe de Guillon vers Anguille, on a reculé d'une dizaine de mètres sur les 40 mètres. Et cette fois, c'est Nelson qui fait usage de son pied gauche, qui n'arrive pas à déborder l'ailier droit narbonnais, qui, depuis ses 22 mètres, ne fait pas d'arrêt de volée, mais tape et envoie ce ballon en touche. Il a trouvé la touche à 40 mètres de ses poteaux, donc lance à suivre pour les Bressans, donc qui pour l'instant s'installe dans le camp narbonnais pour la première fois avec M. Bru, l'arbitre, voilà, je ne sais pas s'il est de la famille donc de l'entraîneur bayonnais actuel, mais M. Bru, donc arbitre aujourd'hui de ce Narbonne Union Sportive Bressane. Peu d'enjeux. L'enjeu, il va se jouer entre le match Massy-Albi et USB Narbonne, simplement, ou Narbonne-USB, simplement, pour savoir qui finira troisième et qui finira quatrième de cette poule. Pour l'instant, il est difficile et impossible de le déterminer. Allez, une balle captée par Antonescu, qui a permis à Guillon de lancer Pierre Dupouille, je pense, qui a avancé jusqu'à l'intérieur des 40 mètres. On fait recirculer ce ballon et on est aux 30 mètres avec un côté fermé joué par Hugo Dupont. Un ballon ralenti, un ballon qui ensuite recircule par l'intermédiaire de Pierre Guillon. On est à 30 mètres dans l'axe des poteaux et on se voit infliger une pénalité. On a gardé le ballon au sol. Donc c'est Martin, a priori, qui a gardé ce ballon au sol à 30 mètres devant les poteaux narbonnais. Voilà donc les Narbonnais qui vont pouvoir se dégager. Effectivement, rien à dire sur le contest. Dommage parce qu'on s'est langué. Montez à l'assaut, allez, donc, d'assaut, l'association, Bressane, qui voit avec satisfaction quelques-uns de ses joueurs, là, enfin, donc, c'est surtout les Narbonnais, hein, qui ont mis des espoirs sur le terrain, puisqu'ils en ont mis 9 aujourd'hui. On est une équipe Bressane presque classique. A priori, on a préservé les joueurs qui risquaient un carton jaune ou une blessure, comme Benjamin Doigt, qui n'a pas beaucoup joué, quand même, depuis le début de saison. Il a besoin un peu de repos, et on aura bien besoin de lui pour cette demi-finale à Verchères. Les prises de balles sur cette touche, jouée sur les 22 mètres Bressan, avec donc un maul, un groupé pénétrant orchestré par les Narbonnais. Ça part un peu en travers, ça n'avance pas trop, ils sont obligés d'ouvrir sur leurs trois quarts avec une passe en avant sur les 22 mètres Bressan, ce qui va donner une première mêlée, avec introduction de Tito Anguillon, donc qui joue en numéro 9, en numéro 10, Peter Nelson. Viard est bien là, sur le banc. Pour l'instant, on va le préserver, je pense, pour la demi-finale. Talonnage, Angelangui, qui a un genou au sol, ce qui fait que la mêlée va tarder un peu à s'organiser. Antonescu verra en deuxième ligne. Martin Arias, voilà, et on salue Marc Zaragori, donc qui a fait le déplacement, et bien sûr on aura à cette occasion une pensée pour Philippe Prudent, notre ami, vraiment trop tôt disparu à l'âge de 59 ans, l'ancien joueur de l'USV qui a 17 ans joué en équipe première au centre avec l'ami Pépel, le président des anciens de l'Union sportive Bressane. Après avoir et ensuite il est allé jouer et à Mâcon et au Sable, une foule nombreuse pour ses obsèques mardi après-midi, une foule nombreuse de rugbyman, des très anciens aux moins anciens, beaucoup d'amis autour de Philippe Prudent pour son départ. Malheureusement, il ne verra pas la montée de l'Union sportive Bressane en Pro D2 cette année. J'avais un grand plaisir. À partager donc sur le jeu de trois quarts qu'il connaissait particulièrement, donc souvent des vues communes, c'était pas toujours celle, il faut le dire, du staff en place, mais c'est bien évidemment le staff en place qui avait toujours raison, nous n'étions que des commentateurs ou des laudateurs plus ou moins avisés de la situation. Donc cette mêlée va se jouer à 22 mètres, c'est la première mêlée à 22 mètres devant les poteaux bressants, dans l'axe des poteaux justement, avec une introduction, petit tour, Guillon. Allez, les Bressans qui tiennent cette mêlée. Il est vrai qu'avec Antonescu, Véret en deuxième ligne, il y a quand même du solide. En troisième ligne, on a Baradel, Buettier et Charles-Antoine Benoît en numéro 8. Allez, de relancer de Griffoul, le capitaine Narbonnais qui a été repris sur ses 40 mètres après le dégagement Bressan. Et donc les Narbonnais qui pour l'instant jouent ont trouvé un intervalle qui permet une percussion à leurs avants et qui sont rentrés dans nos 50 mètres, mais ils sont obligés maintenant de refaire circuler le ballon de la gauche sur la droite. Ils essayent de trouver des intervalles, ils sont assez joueurs pour l'instant. Ils n'en trouvent pas, même si parfois c'est à la limite. Allez, sur les 50 mètres, un ballon ralenti, et le demi de mêlée Narbonnais qui renvoie ses avants. Donc en percussion dans le côté fermé, il rouvre maintenant sur le grand côté avec une passe allongée, avec une bonne situation, mais une mauvaise passe dans Zig et dans Zag, comme on dit du côté du Hellas. Hein. Du côté de Hellas, une passe dans Zig et dans Zag, voilà, et qui a permis aux Bressans de contrer cette attaque narbonnaise et de récupérer une mêlée à introduction Titouan Guillon. Oui, il a fait une passe derrière la tête, elles ne sont pas faciles à rattraper, hein, quand même, celles-ci en règle générale, donc il vaut mieux qu'elles soient dans le berceau, c'est-à-dire donc pas trop loin des mains et pas trop loin du ventre. Voilà, ça c'est la bonne situation avec, et plutôt 50 cm à 1 mètre devant la course du coéquipier qui est censé rattraper ce ballon, et là, à ce moment-là, il y a un peu plus de chance. Allez, mêlée. Deuxième mêlée, la première mêlée bressane, donc les Bressans ont tenu cette mêlée sans problème. Et sorti ce ballon, je ne sais pas où les neuf espoirs narbonnais sont titularisés, sans doute répartis dans toute l'équipe. Allez, introduction Titouan Guillon, on est à 40 mètres des poteaux narbonnais, toujours 0-0 après 9 minutes de jeu au tableau d'affichage. Voilà, allez, un ballon qui sort tranquillement, Titouan Guillon qui peut ouvrir avec non pas le retour à l'intérieur de prévu, mais une avancée dans l'axe, et c'est Titouan Guillon qui, dans un deuxième temps, regagne quelques mètres, et qui va gagner une pénalité. Il a mis hors jeu la défense narbonnaise, et c'est donc on a aperçu à l'image, là, Pierre Dupouille, et puis Émile Caillot, donc titularisé à l'aile, ainsi que Erasmus, et on aura vu tout le monde dans la composition de cette équipe bressane. Pénalité à 23 mètres face au poteau, et donc c'est Nelson qui va essayer d'ouvrir le score, ce qui ne devrait être pour lui normalement qu'une formalité. On espère le retrouver à Aurillac l'année prochaine. Il y a 1000 spectateurs hein, aujourd'hui à Narbonne, et les Bressans jouent face au vestiaire hein, de Narbonne. Du côté du stade, donc face au vestiaire pour ceux qui connaissent ce stade, et adossé aux arches, aux fameuses arches de ce stade narbonnais. Allez, pénalité, 10e minute, USB 3, Narbonne 0. Eh bien écoutez, c'est pas trop mal parti, donc pour l'instant. Donc il faudra surveiller principalement donc le résultat du match Massy-Tarbes pour savoir si on joue Massy-Tarbes, Massy-Albi, savoir si on joue contre Albi ou si on joue contre Narbonne. Mais on verra ça un peu plus tard. Quant aux Niçois, ils finiront premier de la poule, hein, sans aucun doute, sauf à perdre aujourd'hui contre Dijon, ce qui serait quand même surprenant, donc à domicile au stade des Arboras. Donc perdre contre Dijon, ça semble difficile. Ils auront à peu près 7 points de péréquation, donc ils feront 71 points. Et s'ils perdaient donc avec un seul point donc contre Dijon, on pourrait être premier. Voilà, ce qui pourrait encore changer lors des demi-finales qui se joueront dimanche prochain, donc et au stade Verchères et au stade des Arborades. Donc les matchs auront lieu à 17h30 pour l'un et à 19h30 pour l'autre, mais on n'entend pas l'ordre des rencontres. Ils seront, je pense, tous les deux télévisés sur l'équipe. Voilà, pendant ce temps, sur l'engagement donc des Narbonnais, les Bresses ont récupéré le ballon et l'ont renvoyé au-delà, juste au-delà de la ligne des 50 mètres, avec donc un lancé en touche pour les Narbonnais, avec Narbonne, donc un peu ciel bleu, couvert, moutonneux, on va dire, un peu comme aujourd'hui à Bourg, où on a la chance d'avoir du soleil. Allez, l'arbitre qui essaye de faire jouer ses touches rapidement, puisque donc les Narbonnais semblaient faire une petite conférence de presse. Allez, cette touche qui va se jouer, l'arbitre réinterrompt, il voudra un couloir. Et c'est nous qui met du coup et nous inflige une pénalité. Joué rapidement par le numéro 5 qui va en percussion, qui était plaqué par Benoît. Donc ce sont les avant-narbonnais qui sont à nouveau à l'ouvrage et qui ne restent pas debout pour aller défendre leur coéquipier qui est allé un peu trop rapidement seul. Donc pénalité pour les Bressans à 45 mètres des poteaux Bressans. Donc il y a 55 mètres des poteaux Narbonnais dans l'axe du terrain. Nul doute que nous allons aller jouer donc une touche d'occupation avec le pied gauche de Peter Nielsen qui trouve cette touche à l'intérieur des 22 mètres. Une bonne touche trouvée donc à 20 mètres. 3-0 pour les Orvillais à la 13e, bientôt la 13e minute de jeu. Pas de blessés de part ni d'autre pour l'instant et c'est tant mieux. Donc les Bressans qui sont quand même mis en configuration un peu de demi-finale, hein, donc c'est pas l'équipe qui jouera, mais on a Clément Julien qui reste au repos à Bourg, on a Benjamin Doigt pour parler des principaux acteurs. Mémé Perret est resté aussi du côté de Meillonnat, mais donc lui, il est blessé, c'est une autre histoire. Allez, lancé Angelangui qui vise et qui trouve Cyril Verret. Et on a donc fait sortir ce ballon rapidement avec Tito Anguillon qui a pénétré d'une dizaine de mètres dans le camp narbonnais. Un ballon ralenti à 10 mètres sous les poteaux de Narbonne. Tito Anguillon qui ouvre sur les avants dans un premier temps, une deuxième fois sur les avants et une troisième fois, donc on écarte un petit peu, un peu plus au large et on va jouer sur un avantage. Tito Anguillon qui donc lance Baradel en percussion, il a été un peu pris à la tête. Angelangui qui essaye dans son style particulier de s'extirper de son regroupement, il a regagné 2 ou 3 mètres, ce qui permet de donner un peu de volume en retour à l'intérieur, là, pour les Bressans, mais le joueur violet était très violet, les violets qui jouent en blanc, hein, comme souvent à l'extérieur, était très attendu, un ballon ralenti au sol à 7 mètres de l'embute narbonnais, donc les Bressans qui continuent à jouer par Angelangui, cette fois on ouvre grand côté avec Nelson qui ne passe sauter, mais l'arbitre a dû voir un en avant, j'ai entendu un coup de sifflet, c'est dommage parce qu'il y avait essai donc a priori marqué par Erasmus, mais la passe était en avant, voyons voir. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp quand même, mais quand même un petit en avant. Donc on demande à Hugo Dupont à quel endroit il veut une pénalité, parce qu'il y avait 2 pénalités en suivant. Et à 5 mètres du bord de touche de la tribune d'en face, eh bien, il opte pour une pénal-touche. Allez, la pénal-touche, hein, c'est quand même pas notre rampe de lancement préférée. On a parfois quelques difficultés, donc a marqué par un relatif manque de puissance. Voilà. Eh bien, c'est Angelangui qui va faire se lancer à 5 mètres. 15 minutes de jeu. 3-0 pour les joueurs violets. Et l'occasion de marquer peut-être le premier essai de la rencontre. On a joué une touche courte sur Antonescu qui a eu du mal à redescendre mettre les pieds sur terre. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il dit? Il redonne une pénalité contre les joueurs de Narbonne. C'est bien ce qu'on avait vu. Si Antonescu n'est pas redescendu, c'est qu'il avait été pris ou son support avait été pris en l'air. Oui, voilà, c'était effectivement Véret qui était tenu par son adversaire. Et donc l'adversaire ne peut pas le tenir avant que avant que le sauteur soit revenu au sol. Donc nouvelle pénalité, nouvelle pénale touche. Il a dû estimer qu'on avait dû faire une faute ensuite. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il a montré en montrant qu'on avait touché un joueur devant nous également. Et cette fois, cette touche, elle est jouée au fond sur Baradel. Mais elle n'est pas droite cette fois. Voilà. Bon, donc une munition et une occasion même gâchée par les joueurs bressants. Ah, c'est un peu ce qu'a reproché Angel Anguis, c'est le lancer en touche. Il y a parfois quelques imprécisions. Donc, il était maintenant complètement main gauche de Baradel. Alors que c'était plutôt la main droite qui devait être visée. Donc, pour l'instant, les Narbonnais vont jouer une mêlée défensive. Alors, comme c'est une mêlée défensive, les deux premières mêlées, les Bressans se sont contentés, a priori, d'assurer le gain du ballon. Est-ce que là, ils vont essayer, est-ce que le paquet Bressan va essayer de mettre la pression, ce qui serait assez logique, sur le pack Narbonnais? C'est bien ce qu'ils font, mais l'arbitre a estimé qu'on avait poussé avant du côté gauche. Ouais, c'est pas évident quand même, hein, mais enfin bon. Écoutez, ça lui permet d'équilibrer la mêlée, ça va permettre, donc c'est un coup franc, hein, donc un coup franc qui va permettre aux Narbonnais de se dégager, mais le lancer restera Bressan, donc à 35 mètres de l'embut. 35 mètres de l'embut Narbonnais, un nouveau lancer, Angel Anguis. Oui, c'est pas évident qu'on ait poussé avant. Hein. C'est pas évident du tout, c'est bien ce que semble dire Adrien Buettier à l'arbitre, à défaut de lui dire, il lui a fait les gros yeux. Allez, touche pour les Bressans à 35 mètres de l'embut de Narbonne. On va attaquer main gauche vers la droite. C'est ce qui est fait. Titon Guilon, Peter Nelson, qui fait une passe reprise au rebond par Hugo Dupont, qui joue la passe au contact. Et qui, en jouant la passe au contact, s'est fait intercepter ce ballon. Mais l'arbitre interrompt l'action, cette interception narbonnaise. Il avait vu soit un en avant, soit une faute narbonnaise. Mais une faute narbonnaise, il siffle à l'intérieur des 22 mètres. Alors est-ce que c'est tout simplement, puisque la touche était aux 30 mètres, est-ce que ce sont la défense narbonnaise qui n'était pas à 10 mètres et qui l'a pénalisé? C'est possible, toujours est-il que c'est une pénalité sur les 22 mètres. Et que de son pied gauche, il y avait suffisamment d'angle. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est l'équipe narbonnaise qui est montée trop rapidement, qui n'est pas restée à 10 mètres. Et donc, en ne restant pas à 10 mètres, eh bien, ils ont été justement pénalisés par l'arbitre. Et donc, c'est une deuxième pénal-touche. Et cette fois, une prise de balle d'Adrien Buettier qui permet donc aux Bressans de jouer un groupe pénétrant qui avance. Et c'est donc Angel Anguis. Nouvel essai d'Angel Anguis qui devient peut-être bien le meilleur marqueur de l'USV cette saison. Déjà, donc là, il n'y a pas eu de doute. Hein, ça a bien avancé. Voire de la nationale, dit Gilles Malaval. Bon, il va consulter ses fiches. Il va aller sur Internet pour regarder ça pour nous. Bon, il doit être à 4 ou 5 essais d'Angel Anguis, mais surtout, il est arrivé quand même en milieu de saison. Donc là-dessus, il est assez perspicace sur les positionnements qu'il faut avoir dans ces regroupements pour aller derrière la ligne avec le ballon. Donc 8-0 pour l'instant pour les Bressans avant cette transformation à suivre de Peter Nelson. Ah non, là vraiment, c'était vraiment bien organisé ce mot-là. Franchement, techniquement, pas de problème. Jimmy Arias est venu aider Angel Anguis à aller jusque derrière la ligne, qu'il n'avait même à la limite pas besoin. Eh bien, on va arriver à la mi-temps de la mi-temps, donc à la 20e minute de Peter Nelson, donc qui a enquillé déjà une pénalité. Là, il n'est pas sur son bon pied, comme l'on dit, hein, puisqu'il tape de la gauche vers la droite, mais qu'il est gaucher et il échoue dans cette transformation. Dommage, parce que donc ces points-là, ils peuvent toujours compter à la fin du match. Et surtout, ceci, il n'influe nullement sur nullement donc sur les temps de jeu qui vont suivre, puisque la transformation manquée ou réussie, eh bien derrière nous n'avons qu'un engagement obligatoire donc par l'équipe qui encaisse l'essai. Allez, une réception bressane par Hugo Dupont à l'intérieur de ses 22 mètres. Le ballon donc conservé au sol par les Bressans. On crée un petit attelage pour permettre à Tito Anguillon d'avoir un petit peu de marge pour dégager ce ballon qu'il dégage très loin, mais sans trouver la touche qui permet aux Narbonnais depuis leurs 40 mètres de relancer par le numéro 8 qui a été pris, plaqué par Adrien Buatier. Mais dans le jeu au sol, l'arbitre a décelé une faute bressane, ce qui permet donc, c'est Martin apparemment qui est désigné par la caméra, et lui c'est pas certain, mais voilà qui permet aux Narbonnais de jouer une touche d'occupation sur les 22 mètres bressants devant la tribune d'en face. Voyons voir ce plaquage. Oui, ben, il y a quand même, c'est peut-être Adrien Buatier qui est sanctionné, mais alors sévèrement, hein, c'est moins qu'on puisse dire, parce que manifestement, il a tout fait pour sortir rapidement. Toujours est-il que l'arbitre a donné une pénalité en faveur des Narbonnais. Et donc, voilà. Et donc, voilà, cette touche jouée maintenant par les Narbonnais sur nos 22 mètres. C'est eux qui essayent un groupé pénétrant. Ils ont bien avancé avec leur numéro 2, qui a gagné une dizaine de mètres. Ils jouent sur un avantage, les Narbonnais. Donc, on est à peu près certain que 3 fois sur 4, donc un groupé pénétrant de ce style aboutit à une pénalité contre l'équipe défendante. C'est sans doute une règle qu'il faudrait peut-être revoir pour que on voit un peu plus de jeux écartés plutôt que des essais à zéro passe. Allez, toujours est-il que les Narbonnais, pour l'instant, sont toujours à l'attaque avec un gros plaquage d'Erasmus. Donc, mais les Narbonnais conservent la maîtrise du ballon à l'intérieur de nos 22 mètres, bien chassé par les Bressans et notamment par Angel Anguy. Et l'arbitre va revenir à cette première pénalité, à cet avantage. Donc une pénalité à 10 mètres de l'embut de Bressans, à 5-6 mètres du bord de touche. Donc ils vont jouer. Ils vont jouer, à tout le moins, chercher une pénale touche. Ils la joueront ensuite pour les Narbonnais. Voilà, donc le numéro 5 Narbonnais est au soin. Voilà, alors ça a l'air de bien aller. Un petit coup d'éponge magique, il est bien reparti. Où il avait pris un gros plaquage d'Angel Anguy. Voilà. Mais à la régulière, d'ailleurs. Voilà. Bien en dessous des épaules, pas de problème. Pas de pénalité sur cette action-là, mais il y avait une pénalité avant. Donc un groupé pénétrant pour Narbonne à suivre, peut-être, s'ils prennent cette balle en touche, ils la prennent. Les Bressans. Attention, dans le côté fermé, on a joué une petite malice pour essayer d'envoyer le talonneur derrière la ligne. Parce qu'on joue cette touche et on redonne le ballon dans la ligne des 5 mètres. Mais les Bressans étaient vigilants et ont repoussé les Narbonnais, enfin les contiennent plus exactement sur les 5 mètres, à 3 mètres de l'embut maintenant, avec un ruck férocement disputé, un ballon qui est sorti par les Narbonnais, c'est le numéro 5 qui va essayer d'aller derrière la ligne, il est pris donc un temps fort pour les Narbonnais, pour les avant-Narbonnais. Cette fois, attention, ils sont debout. Et ils sont debout, est-ce qu'ils vont tomber dans l'embut? Est-ce qu'ils vont tomber derrière l'embut? A priori non, le ballon est derrière la ligne, le demi de mêlée va essayer de l'extirper pour en le transformer vers les lignes arrière avec, je pense que c'est Smith, le 12, qui est venu donc essayer de passer. Les Narbonnais qui refont circuler ce ballon derrière pour trouver un intervalle. Petit jeu au pied, mais ça sera un Bressan qui sera le premier. Et donc l'arbitre va peut-être revenir à une pénalité contre les Bressans. Ou pas. Voilà, il appelle les deux capitaines, l'arbitre, parce que je ne l'avais pas vu tendre le bras. On n'a pas vu spécialement de faute Bressane, a priori, mais ça reste à démontrer. Alors, nous allons voir ce que va dire l'arbitre. Donc il redonne une pénalité contre Adrien Buetté, dont il dit qu'il était à 2 mètres derrière leur groupement. Ouais, c'est un gros enjeu là, hein, donc il a peut-être exagéré un peu. Donc repénalité pour donc les Narbonnais. Voilà. Alors là, pour l'instant. Ben, franchement, on ne voit pas vraiment en jeu. Hein, parce qu'il est lié donc en groupement sur le côté. Il a les pieds derrière notre ligne, enfin bon bref, toujours est-il que cela permet aux Narbonnais de rejouer un groupé pénétrant donc à 5 mètres de notre ligne. Pour l'instant, on a du mal à les mettre au sol, donc ça y est, c'est allé au sol sans faute, et donc c'est à eux maintenant de rejouer du pilonnage à la 26e minute de jeu. L'USB mène sur le score de 8-0 avec une tentative d'échapper dans le côté fermé du numéro 9 Narbonnais qui est pris à 2 mètres de la ligne. Ce sont à nouveau les avants cette fois qui recollent pour rejouer en percussion. Il revoit un avantage, non mais c'est injouable quoi, donc c'est inarbitrable aussi. Donc à chaque regroupement, donc il est vu, un essai Narbonnais. Voilà. Donc bah, écoutez, c'est presque mieux, si ce n'est qu'il va quand même nous infliger un carton jaune. Donc les Narbonnais qui marquent. Alors, comment cela s'est-il passé alors que l'arbitre avait donné un avantage? Donc les Narbonnais, le demi-mêlé Narbonnais a sorti ce ballon du ruck, a tapé donc une petite chandelle dans l'embut de Bressan qui a été repris par l'ailier Narbonnais qui a marqué en coin. Et donc c'est un carton également qui est attribué à un joueur Bressan, je crois, numéro 4, donc Ferras Antonescu. Ouais, c'est donc Titouan Guilon là qui n'a pas sauté assez haut à la réception de ce ballon alors que l'ailier Narbonnais donc lui a sauté un peu plus haut et a pu capter ce ballon et marquer en coin l'essai qui permet aux Narbonnais de revenir à 3 points des Bressans avant cette transformation de Léo Griffoul à suivre. Et les Bressans qui de la 27e à la 37e devrait jouer à 14 contre 15. Allez, cette transformation à suivre. Il prend son temps. Il prend son élan. C'est parti. Bien tapé. Ça passe entre les poteaux du bord de touche. Voilà des petites choses qui font la différence. Hein. Nous, notre transformation mieux placée a été loupée. Celle-ci complètement du bord de touche. Et donc, il est vrai sur son bon pied par Griffoul, USB 8, Narbonne 7. Voilà, on ne sait pas si on a quelques renseignements sur le score de Massy Albi là pour voir ce que ça donne du côté de nos peut-être futurs adversaires, Albi ou Narbonne. Allez, les Narbonnais qui ont réceptionné cet engagement brassant. Donc Cyril Véret est toujours là, c'est Antonescu qui a dû prendre, semble-t-il, un carton jaune. Voilà, donc. À nous de faire tourner un petit peu le temps, les Narbonnais qui se dégagent et qui trouvent très loin donc la défense bressane. Nelson, on fait circuler sur ce ballon, on se fait une passe un peu dans le zig et dans le zag, on n'a pas pu franchir les 50 mètres pour l'instant, un ballon ralenti et Peter Nelson qui joue un coup de pied décroisé qui ne va pas surprendre l'arrière-garde narbonnaise et l'ailier droit de Narbonne qui dégage très loin. Très loin, mais qui trouve une touche relativement courte, donc puisqu'il a sorti très largement le ballon, c'est bien Antonescu qui se repose avec un carton jaune, donc pour avoir donc être venu défendre en travers dans le regroupement. Et donc c'est une touche sur les 40 mètres pour les joueurs violets. Et donc Angelangui va être informé du lancer à suivre par Arias qui s'est concerté avec les sauteurs du paquet d'avant, donc qui vont être ou Véret, ou Baradel, ou Adrien Buatier. Voilà. Plus clair, dit l'arbitre, Baradel est là, donc Charles-Antoine Benoît est venu se positionner pour faire le nombre. Elle est dans ce lancer en touche. Plus clair, dit l'arbitre, c'est sur l'annonce hein, du nombre de joueurs en touche. Il demande est-ce que ça soit plus clair. Une prise de balle, là, elle est d'Adrien Buatier. Attention, on se mélange un peu donc les Narbonnais au cœur de notre regroupement, mais Adrien peut aller au sol. Et donc ce ballon est pour Tito Anguilan, qui donc lance les avants pour une première percussion. On est à 42 mètres de l'embut de Narbonne, encore les avants, une nouvelle fois, pour tenir la défense narbonnaise la plus concentrée possible, avec Émile Caillot peut-être qui a essayé de passer. Cette fois, on peut faire recirculer ce ballon. Et c'est Hugo Dupont qui revient dans le trafic sur l'intérieur, qui va au sol. On peut réouvrir par Titon Guillon. Pierre Dupouille qui trouve un partenaire qui fait malheureusement une mauvaise passe, puisqu'il avait pu franchir ce partenaire. Je crois que c'était Grégory Dimitri Doucet qui avait mais malheureusement une passe dans le zig et dans le zag qui oblige les Bressans à reconstruire leur avancée, parce qu'on a pu quand même sauvegarder le ballon. Et en reconstruisant cette avancée, on a bénéficié d'une pénalité dans le jeu au sol à 45 mètres. Un Narbonnais ayant cru pouvoir parler à l'arbitre s'est fait reculer de 10 mètres de plus, voire même 12 mètres. Donc on va bénéficier d'une pénalité assez bien placée. Donc elle va être l'option Bressane, la pénale touche peut-être, qui permet de faire tourner le temps, une fois qu'on a le ballon. 8-7 pour les Violets à la 31e minute de jeu. Et les Bressans qui vont prendre des points, donc à 30 mètres des poteaux sur les 15 mètres. C'est pas le bon pied de Peter Nelson, mais bon, il va tenter normalement cette pénalité qui est parfaitement mettable. C'est un peu, voilà. Donc ce serait sur le pied de Mathis Viard, mais ce n'est pas sur celui de Peter Nelson. Voilà, 8-7, 32e minute de jeu. Les Bressans sont à 14 contre 15 depuis la 27e minute. Ça fait donc déjà 5 minutes que nous sommes en infériorité numérique. Et pendant cette infériorité numérique, les Narbonnais n'ont pas marqué. Ils avaient marqué, mais juste avant le carton. Et donc, peut-être que nous allons mettre 3 points ici. De plus, et oui, cette fois, c'est bien enquillé, c'est bien parti. Et donc, Peter Nelson, qui, on l'espère, jouera à Aurillac l'année prochaine. Mais ce qu'on espère surtout, c'est qu'on le retrouvera l'année prochaine comme adversaire. Eh bien, enquille une pénalité qui permet aux Violettes de mener sur le score de 11-7. 11-7, à Narbonne. Devant une équipe narbonnaise mixte, il est vrai, avec 9 espoirs, mais enfin bon. Ça permet donc aux joueurs bressants, dont on voit bien que ça ne joue pas à 150%, mais ça joue sérieusement, c'est déjà pas mal. Réception de Dupont, qui a servi Émile Caillot, qui est sorti des 22 mètres, un jeu au sol. Ensuite, les joueurs bressants sont repartis par leurs avants. Du mal à mettre ce ballon au sol, mais cela est fait. Et Tito Anguilon, qui va jouer et taper dans le ballon narbonnais pour écarter le danger le plus loin possible. Il a trouvé Griffoul. Attention, Griffoul, lui, c'est un contre-attaquant de classe. Et ce sont, oulala, un pilier narbonnais qui s'est sauvé tout seul au corps du groupement. Et sur les 50 mètres, il a été repris sur nos 22 mètres par Hugo Dupont. Mais ils peuvent refaire circuler ce ballon avec la défense bressane qui reloupe un plaquage, mais qui finalement permet à Erasmus de venir quand même contrer l'ailier Narbonnais, de le pousser en touche à 30 mètres, là, on a pris un ou deux courants d'air, là, sur cette action, un double courant d'air, mais on ne s'en est pas trouvé en rue, mais voilà, le demi-frère, Jean-Marie Bertolini, là, qui s'était échappé, le Narbonnais, là, et les Narbonnais, c'est Dimitri Doucet, hein, qui s'était fait, déborder par son vis-à-vis, mais sans dommage pour les Bressans qui ont pu colmater la brèche sur les 22 mètres. 34e minute, 11-7. 11-7 pour l'Union Sportive Bressane à Narbonne. Voilà, devant le panneau des supporters narbonnais, les Tigres de Narbonne, les Tigres de Qatar, les Bressans qui ont pris le ballon sur cette touche et qui ont surtout déjà avancé d'une quinzaine de mètres, ils ont été écroulés pour finir. Voilà, qui va nous permettre une sortie de camp assez simple, puisqu'on bénéficie d'une pénalité à 65 mètres des poteaux narbonnais. Donc on va aller chercher une touche d'occupation. Eh oui, les Tigres narbonnais qui sont donc derrière le Racing Club de Narbonne, comme les Ultraviolets de David Garcia, qu'on n'a pas vu depuis longtemps avec Florence, donc qu'on verra bien évidemment dimanche prochain au stade avec le chaudron violet, et puis les sept échafaudages, les sept qui étaient sur l'échafaudage pour supporter les joueurs violets à Verchères, ils étaient sept. Au départ, 14 pour le dernier match. Voilà, ils seront sans doute invités par le club bressan. Donc ils feront partie de la fête, ils l'auront bien mérité. Allez, les Bressans qui font circuler ce ballon, et c'est Hugo Dupont qui a essayé de faire un petit zigzag à 30 mètres face au poteau. Il est au sol. Pour l'instant, on fait circuler ce ballon dans un côté fermé, mais sans de supériorité numérique ni d'intervalle. On rouvre à nouveau sur le grand côté. Les avants vont au sol. Titouan Guilon peut ressortir ce ballon donc pour un partenaire qui a gagné une dizaine de mètres. On refait circuler derrière avec Hugo Dupont qui revient se mêler à la fête, qui retrouve en retour intérieur Cyril Verret qui garde ce ballon seul. On l'a laissé vraiment complètement au sol un bon moment, hein, Cyril Verret. Les soutiens, donc Arias et autres, sont arrivés très en retard. Et donc l'arbitre inflige justement une pénalité au Bressan, et donc qui va permettre aux Narbonnais de se dégager après 36 minutes et 39 secondes de jeu. On peut dire qu'il n'y a quasiment pas eu d'arrêt de jeu. Donc les Narbonnais vont se dégager, ce qui veut dire que le carton jaune Bressan ne devrait pas tarder à rentrer pour la prochaine situation. Il va arriver en percussion, effectivement. Il n'y a pas de doute sur cette pénalité. On est venu beaucoup trop tard, et c'était d'une part bien isolé, Cyril, et donc suffisamment pour que les soutiens n'ait pas pu venir intervenir tout de suite sur donc le contestateur, le gratteur narbonnais. Allez, 37e minute de jeu, 11 à 7 pour l'Union Sportive Bressane, les Narbonnais qui ont trouvé une touche à 45 mètres de notre ligne de but avec un lancer donc et une prise de balle loupée pour tout le monde, sauf pour Angel Anguy qui bouclait la touche, comme l'on dit, et qui a gagné une dizaine de mètres sur le coup, et ce qui permet au Bressan de faire circuler le ballon, hein, et en jouant sur un avantage, avec Dimitri Doucet qui est plaqué, mis au sol, c'est Dupont qui vient jouer le demi-mêlée. On relance les avants dans l'axe du terrain par Arias. L'arbitre estime qu'on n'a pas spécialement avancé, et cette fois il va infliger un carton à un joueur narbonnais. Sans doute une défense un peu trop virulente. Néanmoins, l'arbitre de touche a levé son drapeau également. Donc, l'arbitre du centre va les consulter. Carton jaune, donc un plaquage dangereux contre un joueur narbonnais sur Angel Anguy. Voilà. Voilà, plaquage cathédral, donc par le numéro 14, donc carton jaune pour Lucas Serrano, l'ailier droit de Narbonne. Donc les Bressans, c'est pas toujours un avantage, hein, pour les Bressans de jouer. Écoutez, l'arbitre a jugé qu'il y avait pénalité, ce qui était déjà particulièrement sévère. Carton jaune encore plus sévère, mais on va pas s'en plaindre, bien évidemment. Et donc à 40 mètres face au poteau, alors qu'on est à la 39e minute de jeu, pratiquement, eh bien, les Bressans vont prendre cette pénalité par l'intermédiaire de Peter Nelson. Donc, on va essayer à 40 mètres. Hein, 40 mètres face au poteau, on est au niveau pour Peter Nelson. Il est au niveau du poteau gauche, hein, quasi au centre du terrain. 11 à 7 pour l'instant pour les joueurs Bressans. L'occasion de rentrer donc au vestiaire avec peut-être 7 points d'avance. Allez, le coup de pied est parti, il semble bien parti, et il passe entre les poteaux, donc 14 à 7 pour les joueurs violets. Et Antonescu qui rentre, mais il est resté au moins presque pas loin de 12 minutes, hein, au frigo. Et comme ça, pas de dommage, puisque pendant ce temps-là, nous avons marqué 6 points. Ouais, voilà, vraiment. C'est peut-être après. Ah, c'est après. C'est un plaquage après. Alors, voilà, bon. Voilà, c'est pas sur le plaquage sur Angel Anguy, c'est un autre plaquage. On a entreaperçu au ralenti, donc voilà, qui s'explique un petit peu mieux. Hugo Dupont à la réception de l'engagement narbonnais, tape le plus loin possible. On a passé la 40e minute, et comme on a passé la 40e minute, eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, hein, c'est tenir le score de 14-7 jusqu'à la mi-temps, et puis après, eh bien, voilà qui sera peut-être fait, puisqu'on va bénéficier d'une nouvelle pénalité dans le jeu au sol. Grifoul pris à garder le ballon. Alors, est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on va mettre en touche et aller au vestiaire? Ou est-ce qu'on se dit, on va essayer de trouver une grosse touche d'occupation et de voir ce qu'on peut en faire, puisqu'on est à 58 mètres hein, des poteaux narbonnais. Eh bien, on va aller jouer la touche, hein, puisque on ne joue pas ce petit coup de pied en deux temps, et cette touche, on la trouve à 20 mètres, donc on la trouve, c'est surtout Peter Nelson qui la trouve à 20 mètres de l'embute narbonnais, avec l'ancien du côté de la grande tribune. Voilà, 14-7, eh bien, un dernier ballon d'attaque pour les joueurs bressants, qui jouaient avec le vent, hein, quand même, en première mi-temps. Il faut quand même le dire, ce vent, donc, qui doit être, sauf erreur, là-bas, le vent de terre, hein, d'après la situation du terrain. Voilà, une bonne prise de balle de Cyril Verret. Angel Anguy, qui est parti, qui trouve un intervalle, il va y avoir un essai bressant pour les poteaux. Avec Pierre Dupouille, comme dans du beurre, là, il est rentré sur une combinaison avec Peter Nelson, on va revoir cela, mais les Bressans, bien, ils ont bien fait d'aller jouer cette touche, et ils mènent à la mi-temps, donc sur le score de 19 et sans doute 2 points de plus, 21-7, il y avait juste une petite incertitude sur la passe, mais bon, a priori non, donc allez, Angel Anguy qui sert Tito Anguillon, Tito Anguillon qui dans le bon intervalle sert Pierre Dupouille qui s'est proposé au rat et donc un score de 21-7 à la mi-temps entre l'Union Sportive Bressane et les Espoirs Narbonnais. C'est la mi-temps là-bas à Narbonne, donc à la mi-temps Union Sportive Bressane 21, Narbonne 7 et puis on va essayer de chercher donc pour vous donner en début de deuxième mi-temps. Chercher le score à la mi-temps de Massy-Albi. Et puis pourquoi pas même de Nice-Dijon. Allez, à toi Donovan, rue Lazare-Carnot, c'est la mi-temps, donc sur un score de 21-7 pour les joueurs bressans, qui ont déjà marqué 2 essais, et ils en ont encaissé un. Voilà.
Merci salut. Beaucoup. À tout de suite. Nous, comme d'habitude, on va patienter en musique pendant cette mi-temps et on va commencer avec un extrait du dernier album de Demi Lovato.
All
Toujours sur Radio B à la mi-temps du match entre Narbonne et Bourg-en-Bresse. Pour rappel, le score est de 7 pour Narbonne, 21 pour nous. On continue avec le groupe, avec le titre Day by Day du groupe, Olsi Brigade, excusez-moi. Les voici.
Darkness that comes and puts me in place. I'm a prisoner, babe. You know I can't escape. lying on my back, just praying for sleep, and I think of you growing old, and it breaks my heart. And I think of you growing old. Darkness that comes and puts me in place. I'm a prisoner, babe. You know I can't escape. Take all you want, take all you can take, but the shadow of age is every step of the way. And it's day by day, so I can take it.
there's a Scottish man who's fronting an American band. Now he lives in Dublin, though. I'm in Rosedale looking for ghosts. Oh, Edinburgh, Galway, Nashville, Ulladulla, breaking my heart in four places. He's singing back.
Tout de suite sur Radio B, la suite du match entre Narbonne et Bourg-en-Bresse. À vous, Serge.
Merci, Donovan. Et donc, Narbonne, Bourg-en-Bresse, Narbonne 7, Union Sportive Bressane, Pays de l'Ain 21, 2 essais à 1, 40 minutes et 30 secondes de jeu au total. Donc, pour l'instant, on s'oriente vers une victoire bressane. Et ça veut dire quoi? Ça signifie. Cela signifie que la semaine prochaine, dimanche prochain à 17h30 ou 19h30, eh bien, ce seront les Narbonnais qui se présenteront au stade de Marcel Verchères, quel que soit le résultat du match Massy-Albi, même si donc c'est Massy qui menait à la mi-temps. Sur le score de 7-6, on n'a pas le score de Nice-Dijon, mais notre adjoint terrain donc, va s'en occuper. Voilà. L'adjoint terrain, donc Gilles Malaval, va s'occuper de cette recherche. Allez, sur l'engagement, ben, les Bressans, par le pied de Hugo Dupont, ont trouvé une touche d'occupation à 25 mètres des poteaux narbonnais. Il n'a pas trop forcé, là, Hugo, il n'a pas essayé d'aller chercher une occasion, il a joué au pied. Donc je pense qu'on va jouer, essayer de jouer un tempo mesuré du côté des Bressans, sans prendre trop de risques, en faisant attention, parce que quand on prend pas de risque du tout, c'est parfois comme cela, que l'on se blesse en étant un petit peu trop décontracté. Voilà. Néanmoins, Hugo Dupont, il est allé contester cette sortie en touche, disant qu'il était à l'extérieur des 22 mètres, le botteur narbonnais apparemment non. Angel Anghi a fait la place à un autre barbu, c'est-à-dire à Paul Sauzaret. Paul Sauzaret, donc, qui a signé au Benin, sauf erreur. Donc, le jeune Mazot est signé dans le sud-ouest, dans un club de Fédéral 2 dont je ne me souviens pas du nom. Allez, les Bressans qui font du jeu avec un retour à l'intérieur de Peter Nelson sur Émile Caillot qui avait pris l'avantage sur la défense et qui avait gagné une dizaine de mètres. Ensuite, ce ballon, on l'a perdu et récupéré grâce à un hors-jeu sur les 50 mètres du numéro 3 de Narbonne. Donc pénalité pour les Bressans. Sur les 50 mètres, voilà. Et Nice mène à la mi-temps, donc 17-5. Donc il n'y aura pas de surprise du côté de Nice. Donc on peut parier sur une victoire des Niçois. Donc qui finiront premier de cette poule? Les Violettes deuxième. Donc, oui, c'est plutôt Albi là qui se profile devant nous. Les Narbonnais, là, donc en perdant ce match, ne peuvent pas rejoindre donc Fousse-Joie. Moi j'aurais préféré les Narbonnais, mais on préférera ceux qu'on battra, bien évidemment. Non, ils se profilent plutôt une demi-finale contre Albi en battant ici les Narbonnais. Allez, les Bressans ensuite de cette pénalité ont trouvé une touche et qui leur permet de lancer le jeu à 5 mètres de l'embute Narbonnais, les Narbonnais qui nous ont fait échapper le ballon et qui nous ont fait commettre une faute à 10 mètres de leur poteau, donc 21-7 pour les joueurs violets. Et effectivement, Albi perd, Narbonnais ne les remonteront pas s'ils perdent contre nous. Et donc c'est bien Albi qui devrait se présenter au stade Verchères. Allez, c'est Erasmus, me semble-t-il, qui a tenté une grosse percé, il est allé au sol et puis l'arbitre a estimé qu'étant tenu, il avait rampé et il lui inflige une pénalité, cette pénalité qui est à 55 mètres des poteaux. Voyons voir. Oui, voilà, il est tourné en pénalité pour le moins sévère. Voilà, parce qu'il s'est plutôt retourné pour mettre le ballon à disposition de son camp. Bon, l'arbitre l'a vu là, donc pénalité à 60 mètres des poteaux bressants. À 60 mètres des poteaux bressants, donc une touche. trouvé par les Narbonnais à 30 à 45 mètres de l'embute des joueurs violets. Donc les Narbonnais qui jouent encore en infériorité numérique pour l'instant, suite au carton jaune du 3 Carrel numéro 14, voilà, qui avait joué avec les espoirs. Donc Narbonnais contre les espoirs Bressan cette saison. Allez, les Narbonnais, il y a eu un an d'avant que l'arbitre, a priori, n'a pas vu là. Il était pourtant bien placé, il n'a pas joué. Donc les Narbonnais peuvent continuer à faire circuler ce ballon jusque, ben non, pas jusqu'à l'aile. Pour l'instant, ils n'arrivent pas bien à le faire circuler ce ballon jusqu'à l'aile. La défense bressane est bien présente. Ils sont bloqués pour l'instant sur les 45 mètres. Et, mais ils sont même reculés cette fois sur leurs 50. À la Noix, on va dire que c'était à la limite. Allez, sur la ligne. Et finalement, ils finissent par jouer au pied pour chercher une touche qu'ils ont trouvée. Et que Hugo Dupont joue rapidement pour lui. Attention, Hugo qui a failli se faire accrocher, mais il a échappé au premier plaquage, qui lui permet de remonter jusqu'aux 22 mètres, de donner ce ballon à ses partenaires. Un jeu au pied de Nelson qui a été contré. Ce ballon qui revient dans les 22 mètres bressants et semble-t-il revenu dans les mains dans les mains de Pierre Dupuy, apparemment. Donc, et les Bressans, ils ont joué rapidement la maille. C'est Hugo Dupont qui se slalome dans la défense de Narbonne jusqu'aux 40 mètres. Il est pris au cou. Attendez, monsieur l'arbitre, là, qui ne voit pas très clair là sur le coup. Mais donc ça permet pour l'instant aux joueurs bressants d'aller au sol. Et donc il estime qu'il y avait un regroupement. Alors le plaquage au cou, il n'a absolument pas été vu par l'arbitre ni par les arbitres de touche. Parce que là, il y avait manifestement une pénalité pour les joueurs bressants. Voilà, on le voit ici. Comment l'arbitre a pu ne pas le voir, ça, c'est un mystère. C'est le numéro 8 qui tenait par le cou Hugo Dupont. Donc il faisait un bel étranglement. Voilà, et Massy donc mène 12 à 6 contre Albi. Voilà, donc à la 47e minute de jeu et 21 à 7 pour les joueurs violets. Et donc une mêlée narbonnaise, donc une mêlée défensive pour Narbonne. Donc après cet oubli arbitral, donc sur un plaquage à tout le moins dangereux, un étranglement sur Hugo Dupont. Mais il s'en sort bien, donc il n'est pas complètement étranglé et il a repris sa place tout de suite. Alors qu'il va y avoir, il va y avoir déjà quelques changements du côté des joueurs violets. Donc on va changer de un pilier à tout le moins. Voilà, et il me semble qu'avoir aperçu Mathis Viard se préparer. Allez, cette mêlée qui, pour l'instant, s'écroule. Et celle de Massy. Donc, les Massicois qui semblent prendre l'avantage sur les Albigeois. Donc, est-ce que les équipes comme Albi et Narbonne, on se sont dit, on ne va pas trop s'engager. Voilà, et donc, malgré tout, rien ne change sur l'ordre, puisque si les Narbonnais... Donc perdre contre les joueurs violets, eh bien les Narbonnais iront à Nice et les Albigeois viendront à Bourg. Allez, cette mêlée défensive narbonnaise à la 48e minute, alors que le score est de 21 à 7 pour les joueurs violets. Donc ils ont gagné leur ballon, ils font circuler dans un grand côté fermé. Ils ont pu remonter avec leurs trois quarts jusqu'aux 50 mètres. Et ce sont les avants maintenant qui viennent en percussion à 15 mètres du bord de touche, puis à l'intérieur du 15 mètres avec beaucoup de passes au cordeau, on va dire, donc pour les Narbonnais qui sont toujours bloqués sur les 50 mètres et qui envoient le ballon pour derrière, donc pour un nouveau regroupement, leur style de jeu un peu stéréotypé, un peu rare, mais finalement le demi de mêlée joue au pied et son jeu au pied déborde. Erasmus, enfin, il ne déborde pas, mais devant Erasmus, ce ballon gicle en touche. Et donc, il n'avait aucune chance de pouvoir l'en empêcher. Donc, touche défensive pour les joueurs violets avec un lancer de Paul Sauzaret. Allez, les changements du côté des joueurs violets. Martin... donc c'est Bordeaux hein, qui rentre, me semble-t-il, numéro 23. Et donc Viard, Mathis Viard qui rentre également et qui remplace bien Peter Nelson poste à poste hein, cette fois. Donc Mathis Viard qui rentre. Voilà. Et cette touche bressane, on a du mal à récupérer et à contrôler ce ballon, est tellement mal qu'on l'a même perdu, ce qui permet au Narbonnais de jouer un petit coup de pied dans le côté fermé sur lequel Tito Anguillon sera le premier à se précipiter. Hein. Et puis on dit qu'Audric Sanslaville serait rentré également donc à la place de Dupont. Donc on ménage Hugo Dupont donc pour. Ça c'est intelligent. Hein. On a bien besoin du Hugo Dupont revenu là sur les deux derniers matchs, vraiment à son meilleur niveau. Et puis là, il a joué, il n'a pas joué le pied au plancher, mais il a joué juste. Et il sort du terrain pas blessé et donc opérationnel. Et on a besoin de ce joueur d'instinct, ce joueur de création pour dimanche prochain. Ah, Erasmus qui voulait jouer la touche rapidement. L'arbitre lui dit, attendez, regardez voir. C'est contre vous qu'a lieu cette pénalité. Ben, c'est loin d'être évident d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Alors c'est peut-être le plaquage, mais oui, Erasmus, il avait raison de jouer. Cette pénalité parce que tout pouvait penser qu'elle était pour les joueurs de l'œil parce que alors là rien aux images démontre qu'il y a eu une faute Bressane, enfin donc c'est bien une pénalité qui a été donnée contre les Bressans et une touche d'occupation un peu courte hein, quand même trouvée, touche de rouge-gorge dirait-on aurait-on dit dans les décennies 60-70, touche de rouge-gorge, mais néanmoins un lancer narbonnais, donc à 20 mètres de l'embut Bressan, les Bressans qui laissent les Narbonnais prendre ce ballon, qui emmène les Narbonnais au sol, voilà, à 15 mètres de notre ligne de but. On charge à l'intérieur du ruck, voilà, pour les contrarier, et qu'est-ce qu'en dit l'arbitre qui a donné un petit coup de sifflet avec un énervement, voilà. Narbonnais qui n'ont pas aimé être chargés dans ce ruck, là, au cœur du ruck d'ailleurs, a priori particulièrement régulièrement. L'arbitre, il est un peu indécis, donc sur le contre ruck, il estime qu'il y a eu un en avant Narbonnais, et c'est sa décision. Sa décision, c'est de donner une mêlée pour les joueurs bressans. Mêlée défensive bressane à la 52e minute de jeu, un score de 21-7 pour les joueurs violets. Avec une demi-finale qui se dessine donc de plus en plus, une demi-finale USBPA Albi. On se rappellera que les Bressans avaient perdu de 2 points à Albi à la dernière minute après avoir eu le match dans la musette. Là, l'arbitre nous inflige un nouveau coup franc, estimant que nous avions poussé un peu trop tôt, rentré en mêlée un peu trop tôt. Donc sur ce coup franc, les Narbonnais reprennent la mêlée. Donc la mêlée, au lieu d'être pour Tito Anguillon, elle est maintenant pour les Narbonnais. Ben, ils ont pris la mêlée. Ils se sentent peut-être costauds, mais là, on va peut-être leur montrer qu'ils se sont trompés. Toujours en deuxième ligne, Antonescu Verret. Voilà. Toujours le flamboyant Adrien Buettier, là, donc un peu orphelin de Simon Bornua, là, qui n'était pas convoqué donc pour ce déplacement. Donc Simon qui donc a fait quand même de sacrées parties encore cette année. Voilà, allez, la mêlée s'organise, introduction Narbonne, la mêlée Bressane avance et les Narbonnais prennent une pénalité. Eh bien c'était ce qui était prévu donc par le commentateur. Donc cette mêlée Bressane, elle a avancé à chaque fois qu'il a été nécessaire d'avancer. Ça veut dire que sur nos mêlées, on n'essaye pas autre chose que de gagner et de conserver ce ballon, et alors qu'on ne se met pas donc le pied complètement planché, on ne s'arrache pas trop la gueule, mais on fait ce qu'il faut pour être maître du ballon, et maître du score également, 21-7 à la 54e minute de jeu. Et allez, Blumen qui rentre à la place de Cyril Verret. Allez, un petit salut pour les Espoirs Bressans qui, en s'imposant à Carcassonne sur le score de 17-10, sauf erreur. Eh bien, sont maintenus, c'est bien là l'essentiel, sont maintenus donc dans leur catégorie, donc grâce à cette victoire avec un opposant direct Carcassonne, et surtout la victoire importantissime contre Narbonne au stade de Marcel Verchères. Donc une chance. Tiens, la chance, elle est Bressane. Un ballon qui s'arrête à 10 cm du ballon mort en fond d'en-but et à 10 cm de la ligne de ballon mort touche, on va dire. Donc, sur un très long coup de pied, Bressane. Donc, il y aura donc un renvoi au 22. Oui, les contre Narbonne, oui. Voilà, je vois du noir sur les shorts narbonnais, et puis donc c'était les rouges et noirs oyonnaxiens qui ont perdu contre les espoirs bressans au stade Marcel Verchère. Et donc on peut penser que le fait que le match se joue au stade Marcel Verchère a donné un supplément d'âme aux joueurs bressans, et leur a permis de battre les oyonnaxiens qui jouaient la première place à ce moment de la saison. Et on peut remercier donc Eric Thomas, le vice-président chargé des sports de Bourg Agglomération, d'avoir intelligemment autorisé cette utilisation de l'espace public. Voilà, donc ça c'est très bien. Il vaut mieux quand même des pelouses qui coûtent aussi cher, qu'elles puissent servir de temps en temps aux jeunes et les identifier avec leur club. Voilà, ce qui nous a un peu éloigné du commentaire du match qui reprend par une pénalité pour les joueurs narbonnais, donc à 52 mètres de notre ligne d'en-but. Ils l'ont joué à la main et ils sont bloqués sur les 40 mètres. Ils font souvent des passes retour intérieur à la limite de l'en avant. L'arbitre en a sanctionné qu'un. Et donc pour l'instant, ils font circuler la balle latéralement. Ils ont passé les 40 mètres bressants et qu'un joueur bressant au sol. Pas tout à fait, il est à joue, donc c'est peut-être Arias là-bas. Et donc il se relève, et les Narbonnais, toujours qui font circuler ce ballon par leur ligne arrière, il passe dans le zig et dans le zag. Paul Sauzard a loupé d'emmener ce ballon au pied, et les Narbonnais ont pu sauvegarder cette possession de balle sur leur sur nos 45 mètres, toujours un score de 21-7, c'était le score acquis à la mi-temps, à la 56e minute de jeu. Ben, on laisse les Narbonnais qui n'ont pas fait d'en avant, mais c'était bien limite, qui joue au pied, et ce ballon qui va sortir en touche à 1 mètre de la ligne bressante, donc devant Audric Sanslaville qui a signé à Rouen, mais qui sera bressant pour jouer la demi-finale. Donc il sera en concurrence au poste avec bien sûr Pierre Santalier. On a quand même quelques bons arguments, donc Benjamin Doigt, des trois quarts qui sont créatifs, véloces, et on aura besoin d'eux contre Albi. Donc l'opposition, ça sera entre le groupe AC d'Albi et puis finalement, on l'espère, le jeu de trois quarts retrouvé depuis trois matchs finalement, parce qu'aujourd'hui on a pu faire circuler ce ballon aussi. Ce jeu de trois quarts retrouvé notamment face à Cognac et à Suresnes. Et à Suresnes, les deux fois, donc deux parties, deux matchs où les Bressans avaient marqué plus de 40 points à leurs adversaires, alors que c'est Capanadze là qui rentre. Capanadze, donc le pilier gauche, allez, et qui rentre. Allez, touche un temps soit peu loupé, mais finalement repris en fond de touche par Benoît. Benoît donc qui a pu sécuriser ce ballon à 10 mètres de notre en but. Voilà, et Tito Anguillon, après, derrière ce latelage constitué par ses troisièmes lignes, peut dégager le camp bressan, mais ne pas trouver la touche. Il trouve le numéro 14 sur les 50 mètres. Deux passes latérales, une troisième passe pour envoyer le ballon complètement de l'autre côté. Non, la troisième passe n'est pas venue, ce qui a permis au bressan de contrer le centre narbonnais, le jeune narbonnais, sur ses 50 mètres. Pour l'instant, les narbonnais, donc, ils ont reculé sur leurs 55 mètres. Ils essayent de trouver des intervalles dans un petit périmètre, ce qui leur a pas trop réussi pour l'instant, avec des retours passes intérieures un peu systématiques. Et au final, mais ils finissent par jouer au pied. Ils jouent au pied, ils trouvent Audric Sanslaville qui récupère chromatiquement ce ballon sur sa ligne des 22. Il est remonté jusqu'au 40. Ballon maîtrisé, sécurisé au sol pour les joueurs bressans qui le refont circuler par Mathis Viard, loin derrière. On s'est fait des passes un peu hautes, on n'a pas beaucoup avancé. Une accélération d'Erasmus qui a passé les 40 mètres, mais ce ballon lui échappe et sort en touche au bénéfice des Narbonnais à la 59e minute. Touche sur les 40 mètres bressans, lancé Narbonne. Union sportive Bressane, 21, Narbonne 7. On est bientôt à la mi-temps de la mi-temps. Voilà, donc ce ballon en touche. Voilà. Et le numéro 8, Narbonnais, est sorti, a été remplacé par Bourrega. Voilà. 21-7 pour les joueurs violets. Ah, Lucas Lyons qui est rentré. Donc Baradel étant toujours là, est-ce que Lucas Lyons a remplacé Benoît? C'est bien possible. Il a pu remplacer également éventuellement Adrien Buatier. Et c'est Buatier apparemment qui a été remplacé. Allez, les Narbonnais qui, avec une tape, ont pu récupérer ce ballon que leur numéro 9 bonifie par une belle percée dans l'axe. Il est repris à 23 mètres de nos poteaux avec un joueur récent, attention, qui reste au sol. Est-ce que c'est Mathis Viard qui reste au sol? Ça serait bien, bien embêtant, même si Peter Nelson est bien efficace aussi. Les Narbonnais, donc, ah bah, Lucas Lyons, il est rentré, il imprime sa patte d'entrée sur un premier plaquage. Il y a un maul. Sur ce maul, les Narbonnais ne peuvent pas sortir le ballon. Et mêlé pour les Bressans, mêlé défensif. Et on va surtout essayer de voir où en est Mathis Viard, là, qui, sur la percée du numéro 9, a pris un pain, non pas de Villemotier, mais un pain de Narbonne. Voilà, ça y est, il a repris sa place. Voilà, le numéro 17 qui rentre maintenant à Narbonne. Voilà, qui rentre le pilier narbonnais, demi-frère de Jean-Marie Bertolini, là, qui sort. Jean-Marie, qui, je l'espère, fera partie, à moins qu'il tienne l'étiquette à l'entrée, sera parmi... L'équipe de l'échafaudage, les supporters bressants number one, Thierry Trincea, Gérard Chevalier, Jean-Marie Bertolini, Denis Reverdy, Serge Charvin, Jean-Marc Fourier et Philippe Nico. Voilà, donc qui normalement, je crois savoir que seront les invités du club pour cette demi-finale. Ils l'auront bien mérité, les garçons, donc d'aller à la case VIP. Allez, introduction sur cette mêlée pour les joueurs bressants avec un côté fermé que jouait avec Audric Sanlaville qui a trouvé à l'intérieur Lucas Lyons qui s'échappe puissamment, qui a franchi les 40 mètres, une grande passe extérieure vers Dupouille qui donne à Dimitri Doucet qui feinte la passe à Erasmus et qui Dimitri Doucet qui va marquer un essai de 80 mètres, 72 mètres 50 exactement. Et donc 72 mètres 50 plus tard, eh bien c'est Dimitri Doucet, le natif, je ne sais pas l'ancien de Morvène, mais donc l'ancien joueur de Morvène, dit peu en poulet Bresson, vous l'étiez Bordua et d'autres, eh bien qui était les marqués 7 et 5 qui permet au Bresson de mener sur le score de 26 à 7. C'est Audric Sanlaville qui a créé cette situation sur ce côté fermé 89. Donc c'est lui qui trouve l'intervalle, qui d'une main à l'intervalle peut retrouver. Lucas Lyons qui avance sur une quarantaine de mètres. Il était tout frais, Lucas. Il avance. Et au moment d'être pris, il envoie une grosse passe sur son côté droit, donc vers Dupuis, qui sert Dimitri Doucet, qui va derrière la ligne marquer le troisième essai bressant, 63e minute de jeu. Et c'est Mathis Viard. Ça y est, Mathis Viard, il est bienvenu. Il faut donc qu'il y ait, Mathis. Il faut que tu nous donnes un peu de confiance. Eh bien, il le met encore à droite. Il a un vrai problème. Entre les 20 et les 30 mètres sur les 15 mètres, quand il tape en direction des poteaux, il met ses ballons juste, pas très loin des poteaux, des coups de pied si dur, mais à côté. Une transformation. Heureusement, celle-ci n'aura pas la même importance. 26 à 7, 3 essais de pénalité et une transformation pour les Bressans. Les transformations, ça compte, il y a 4 points de transformation qui ont été laissés par les Bressans. Pas d'importance sans doute aujourd'hui, mais sur un match le coup près, ça peut l'avoir. Mais aux adversaires, nul doute que Mathis Viard et Peter Nelson auront leur marque, surtout Mathis, pour enquiller ce qu'il faudra. Aller un engagement Narbonnais direct en touche, qui va donner une mêlée. Une mêlée, alors que Massy mène par 17 à 13. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'importance, ce résultat Massy-Albi, puisque les Narbonnais battus par les Bressans ne pourront pas passer devant les Albigeois. ce qui fait que les Niçois étant premiers, on aura premier Nice, deuxième les Violettes, troisième Albi, quatrième Narbonne, et des demi-finales Nice, Narbonne et Bourg-USB, sauf surprise administrative ou cas de Covid, pourquoi pas de dernière minute. Voilà encore une chose qui peut arriver. Allez, cette mêlée sur les 50 mètres avec Campeggia qui est rentré à la place donc de Tito Anguillon. Donc la dernière action de Tito Anguillon, ça a été ce côté fermé qu'il a initié, donc transformé ensuite 72 mètres et demi plus tard par Dimitri Doucet dans l'embut narbonnais. Allez, donc échappé de Luc Allion derrière cette mêlée. Il est repris et bloqué sur les 40 mètres, il va au sol, ses copains avant viennent donc récupérer ce ballon. Campeggia peut l'éjecter vers Mathis Viard, vers Sans-la-Ville qui va au sol et donc à 5 mètres de l'embut. Cette fois, une mauvaise passe bressane permet aux Narbonnais de récupérer le ballon sur leurs 40 mètres et de lancer une contre-attaque. Qui permet à l'oreiller de trouver un intervalle, de redonner à l'intérieur un partenaire qui est repris donc à 30 mètres de notre ligne d'embut. On a pu reconstituer notre ligne défensive, on était en grande difficulté. Donc les Narbonnais qui récupèrent ce ballon, qui peuvent le refaire circuler sur nos 40 mètres avec une passe allongée et qui décale l'ailier, jeu au pied devant Audric Sans-la-Ville et c'est Narbonnais. Et c'est Narbonnais, donc on s'est pas bien forcé là en défense, hein, du côté d'Audric Sans-la-Ville, là, il n'a pas très beaucoup, parce qu'il a beaucoup insisté, donc sur ce jeu au pied, donc on décale du côté de Narbonne l'ailier qui arrive devant Audric Sans-la-Ville, il joue ce ballon au pied, Audric le balance un peu, mais c'est un autre partenaire qui vient conclure dans l'embut en suivant ce coup de pied. Voilà, donc le coup de pied, Audric Sans-la-Ville qui pousse, voilà, et puis le Narbonnais qui arrive plus vite que Campeggia dans l'embut de Bresson et qui marque un essai qui ne change pas pour l'instant vraiment la face des choses. C'est Campeggia qui était là, il était quand même sur le premier plaquage, ça veut dire qu'il est bien venu. Allez, donc Sans-la-Ville qui a interrompu sa course. Après, voilà, qui là sur sa défense, ça n'a pas été... allez, pas de problème, hein, de toute façon, 26 à 12, 67e minute de jeu, 12 pour Narbonne, 26 pour les joueurs violets, voilà, et si c'est 26-14, donc les Narbonnais seraient donc à 12 points les Bressans, et avec deux essais transformés, ils pourraient passer devant, et à ce moment-là, ce serait peut-être les Narbonnais qui pourraient venir à Verchères, allez savoir. Allez, cette transformation, elle passe entre les poteaux. Les Narbonnais ont tapé deux transformations, ils les ont quillées. Les Bressans en ont tapé trois, n'en ont quillé qu'une. Et quatre points, ça compte, hein, au tableau d'affichage, au plan chaud, comme on dit, dans le sud-ouest. Voilà, donc... voilà. Donc, la défense, oui, de Sans-la-Ville n'a pas été très efficace. Il a préféré aller percuter le jour au pied plutôt que de courir en direction de son embut, pour être peut-être le premier pour sauver ce ballon d'essai. Allez, engagement récent, Mathis Viard, qui trouve les Narbonnais dans leur camp et qui dégage en touche, alors que l'arrière Narbonnais Griffoul, le capitaine qui est sorti, m'a dit que finalement, ils font une bonne partie, les Narbonnais, face aux Bressans qui sont venus avec leur équipe type. Alors, pas tout à fait, quand même, mais donc avec une équipe oui, qui se rapproche de l'équipe type, puisque c'est l'avantage d'avoir 25, 26, 30 joueurs capables de, donc, d'être efficaces donc, dans la rotation des joueurs bressans. Bon, les Narbonnais, ils ont fait un autre choix avec notre joueur. Et donc les Bressans, quand même sans s'arracher la gueule, hein, mènent sur le score de 26 à 12 avec cette touche sur les 40 mètres Narbonnais. Les avant-bressans qui ont pénétré d'une dizaine, une quinzaine de mètres, avec ensuite Campeggia qui a trouvé un intervalle, qui a fait une schiste terrain pour Sans-la-Ville, qui a été repris à l'intérieur des 22 mètres Narbonnais. Un ballon au sol, et on peut faire recirculer ce ballon avec peut-être un bon surnombre qui n'est pas joué, avec le numéro 19 qui joue au sol Narbonnais, sans être sanctionné, un ballon complètement ralenti, donc que Campeggia va reconfier à Paul Souzaret. Paul Souzaret qui va en percussion, donc cette fois Luc Allions en percussion, puis donc peut-être Antonescu, c'est cela, puis Capanasi qui récupère ce ballon, qui le donne à Matisse Viard qui retrouve Capanasi, me semble-t-il, qui a regagné une dizaine de mètres. On refait circuler ce ballon par une grande passe, mais qui ne crée pas de déséquilibre dans la défense narbonnaise. Cette fois, c'est Baradel qui, dans l'axe, crée ce déséquilibre. Campeggia qui joue donc dans le côté fermé pour Erasmus en force, qui donc est à 5 mètres de la ligne d'en-but. Cette fois, Campeggia pour Antonescu, épaulé par Luc Allions. Campeggia à nouveau qui sort ce ballon donc pour Bloemen. Bloemen qui est retourné à 2 mètres de l'en-but narbonnais. Puis Capanasi qui s'essaye à son tour. Alors on joue pour les Bressans sur un avantage. Donc les avants qui aimeraient bien marquer aussi leur essai. Et cet essai il sera plutôt marqué par Émile Caillot. Émile Caillot, bout de 10, qui marque un essai Bressan. Donc ça montre bien quand même que les Bressans, ce qu'on appelle le Rex, score de 31 exactement maintenant à la 70e minute de jeu. Dans ce match qui aura servi de galop d'entraînement profitable, je pense, pour les joueurs violets. Il y a un galop d'entraînement avec un sparring partner, certes de qualité technique, mais manquant peut-être un peu de densité physique et de repères d'équipe. Donc, Émile Caillot qui, lui aussi, quittera les rangs violets. Après de nombreuses années, il va jouer dans un club de Fédéral 2 également du côté de Brive, sont donc sa région d'origine. Allez, Matisse Viard qui a une transformation à taper du bord de touche au même endroit que Griffoul avait tapé en première mi-temps. La seule différence, c'est que Matisse Viard, il va taper de la droite vers la gauche en étant droitier, et que Griffoul avait tapé dans la même situation mais en étant gaucher, donc avec un angle beaucoup plus ouvert. Voilà, mais pour le coup de pied, ce coup de pied, eh bien, il passe entre les poteaux, malgré tout. Bien, Matisse, là, ça te donne de la confiance. Il était beaucoup plus difficile que la transformation de l'essai précédent. Et il l'a enquillé entre les perches. Donc, 33 pour les joueurs violets. Avec Matisse Viard qui avait fait la passe décisive. Hein, il a éviter de donner à Audric Sanslaville et à Pierre Dupuy pour servir directement Émile Caillot. Émile Caillot qui aura la ligne de touche est allé marquer. Donc ce quatrième essai récent. Alors 4 essais à 2. Voilà qui est pas mal. Voilà, pourquoi pas un cinquième essai, hein, 33-14. 4 essais à 2. Pourquoi pas un troisième essai pour un cinquième point qui ne serait pas grand chose. Hein. Puisque les Niçois feront en gagnant aujourd'hui moins 60, ils feront 75 points minimum et peut-être 76. Donc peut-être que ça pourrait se discuter, mais en cas d'égalité avec Nice, maintenant ça serait de l'avérage général, puisqu'on a joué qu'un match à Nice. Donc c'est encore possible qu'il y ait un changement de dernière minute, puisque May devrait, les Niçois, quand même conserver la première place, même en gagnant qu'avec 4 points contre Dijon, même si nous en marquions 5 ici, puisqu'ils vont avoir 7 points, virgule quelque chose. Et à minima, c'est ce virgule quelque chose qui manquerait pour que les Bressans passent devant les Niçois. Allez, les Bressans, ils ont tapé ensuite de l'engagement d'Arbonnet très loin dans le camp de Narbonne. Et les Narbonnais sont contraints à dégager en touche leur camp en trouvant une touche à 45 mètres de l'en-but. Donc le jeune ailier Narbonnais, là, il a le souffle court. Hein. Donc il doit trouver que le rythme est un peu élevé. Ça change peut-être un peu les matchs espoirs, hein, qu'il a l'habitude de jouer. Mais même si là, ça ne s'est pas joué, c'est un rythme effréné, hein, mis sur des percussions de grande force. Toujours est-il que c'est un lancer donc pour Paul Souzaret. Paul Souzaret Paul Sauzaret, donc qui effectue ce lancer en direction de Baradel. Baradel qui a pris ce ballon. Maintenant ensuite c'est Campeggia qui a trouvé donc ses trois quarts avec au final Mathis Viard qui était au sol, relayé par Lucas Gons, qui est déjà à 25 mètres dans l'axe des poteaux narbonnais avec donc la première ligne bressane en percussion, donc ballon ralenti, Campeggia qui ouvre donc un ballon un peu ralenti puisqu'il a échappé aux mains bressanes mais vers l'arrière. Allez, on rejoue dans le côté fermé vers Émile Caillot qui re-rentre à l'intérieur pour retrouver donc le soutien de ses avants. Ballon ralenti, Campeggia à nouveau qui fait circuler ce ballon. Mathis Viard qui a servi un de ses avants. Mathis Viard qui est interrompu. L'arbitre a vu un petit en avant de passe. Bah, celui-là, il l'a vu. En avant de passe Bressan. Donc mêlée défensive narbonnaise. 33 à 14 pour les joueurs bressans. Ouais, donc, oui. Oui, bon, il a vu un en avant, là, mais c'est tout sauf évident. Allez, les Narbonnais qui ont un peu les genoux à terre, là, avant cette mêlée. Donc, un avant qui se fait strapper le pouce. L'ailier Narbonnais, le jeune, qui, lui, semble un peu dépassé par le rythme de la partie. Après, il a du mal à retrouver son souffle, ça va mieux. Et donc, cette mêlée. Alors, est-ce que les Bressans vont faire l'effort ou pas pour la gagner, pour essayer d'aller marquer un cinquième essai. Donc, voilà, avec un petit focus sur Thomas Chaubeau et Marc Zaragori qui a fait donc ce long déplacement à Narbonne, tandis que le cœur serré, puisque son ami et beau-frère Philippe Foudan, donc malheureusement, comme nous en avons déjà parlé, et malheureusement donc décédé, il n'y aura qu'un jour demain, malheureusement, donc un problème cardiaque. Un problème cardiaque, donc à l'âge de 59 ans, lui qui a 17 ans jouait déjà au centre en équipe première de l'Union sportive Bressane, sans être passé, il est sorti des cadets, il est rentré directement, c'est vrai qu'il avait déjà le gabarit qu'il avait donc maintenant, donc un garçon d'un mètre 85, donc qui à l'époque c'était déjà un très très joli gabarit pour jouer au centre, et puis une belle musculature, de la vitesse et de la technique. Tout pour faire un bon joueur qui s'était d'ailleurs retrouvé au bataillon de Joinville avec Pépé Jnac, vous dites Pépé Jnac, le troisième ligne grenoblois qui d'ailleurs s'était déplacé pour les obsèques de Philippe. Donc la semaine dernière, enfin mardi dernier. Allez, pendant ce temps, les Narbonnais derrière cette mêlée, ils ont pu s'échapper dans le côté fermé, remonter jusque dans nos 30 mètres où il y a un ballon ralenti au sol et un ballon que convoitait Campeggia. Ah, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Voilà. Bon, donc ballon qui était convoité par Florent Campeggia et donc mais talonné à la main par un Narbonnais qui s'est vu infliger une pénalité, qui a joué rapidement Lucas Lyons à 22 cm de la marque de l'arbitre et qui l'a empêché de jouer. Donc au lieu d'avoir du jeu à la main, eh bien, on aura du jeu au pied, puisque c'est Mathis Viard qui va chercher une touche, une belle touche d'ailleurs, parce qu'il avait un angle fermé avec son pied droit. Il a trouvé cette touche sur les 22 mètres, sur les 22 mètres, Bressan. Blumen qui est rentré, qui s'affirme un petit à petit, hein, il prend de la force, de la forme, des matchs, de la musculature, donc il sera bien utile. L'année prochaine, on prend des deux. Voilà, donc même si là, s'il sera un peu temps, il faudra peut-être mettre du vieux baroudeur, hein, là à côté. Et puis voilà, donc oui, on y croit, la Pro D2, hein, donc on croit à cette équipe, beaucoup plus sur la fin de saison que sur le début, donc cette équipe qui est montée en puissance, qui a retrouvé son jeu complet, c'est surtout cela qui fait la différence, avec des trois quarts redevenu performant. Allez, un côté fermé pour de Campeggia, Campeggia qui va les marquer tout seul, un essai, donc un cinquième essai Bressan. Un cinquième essai Bressan, qui semble bien accepté par l'arbitre. Les Bressans, donc, ils vont finir avec 75 points. 75 points. Donc, quels sont les autres scores pour l'instant? Il est parti côté fermé. Il échappe à deux joueurs, un troisième joueur. Il s'enlève. Le quatrième plaquage du numéro 7 ne l'empêche pas. Donc, de marquer 7 décès. Voilà, 7 décès. Allez, 20-13 pour Massy devant Albi, et puis après on monte un petit tour du côté de Nice pour savoir où on en est également. Et donc a priori, donc une demi-finale USB-PA. Une demi-finale, a priori une demi-finale USB-PA Albi. Puisqu'il n'y a pas de doute, hein, les Armonais vont perdre, hein, comme je dirais. Je crois, donc 33 et 5, 38. Allez, je vais continuer avec Nice pour donner de la confiance sur cette transformation. Entre les poteaux, hein. On a un décès sur les transformations et l'arbitre siffle d'ailleurs la fin de la partie dans ce score de 38 à 14. 30 pour les joueurs 38-14, donc contre une équipe mixte, hein, narbonnaise, avec 9 espoirs. Mais les Bressans qui n'ont pas eu à puiser, hein, dans leurs ressources, c'est ça l'important. 5 essais à 2, donc les Bressans qui finissent avec 75 points. Donc on peut penser que les Niçois en auront 76. La différence, ben, ce sera peut-être que... Ah, un score de 31 à 24. 31 à 24 pour Nice devant Dijon. Donc le nombre d'essais, on ne le connaît pas, mais on peut supposer qu'il n'y a peut-être pas de bonus offensif pour les Niçois. Donc qui, avant péréquation, donc... aurait plutôt 68 points. Hein. Voilà. Voilà, donc, voilà. Bon, écoutez, très certainement, hein, un match, une demi-finale, Bourg, Union Sportive, Bressane, Albi, au stade Marcel Verchère, ce sera dimanche, ce sera donc retransmis. Hein. Je crois que l'équipe retransmet les deux demi-finales. Donc, a priori, pas de blessés aujourd'hui dans les rangs bressans, c'est ça qui est vraiment le plus important. Un bon entraînement de mise en jambe, il faut le voir comme ça, je pense, mais ça a permis aux joueurs eh bien, évidemment, de jouer, ça c'est important, puisqu'on n'avait pas joué la semaine dernière. Donc ben, les jeunes narbonnais ont pu mesurer l'écart qui les sépare encore du niveau de la nationale. Donc on va vous quitter, on sera là la semaine prochaine. Massy, donc le match serait terminé sur un score de 20-13 pour Massy. Les Niçois semblent donc l'avoir, mènent en tous les cas, menaient donc sur le score de 31 à 24. Eh bien, donc bon retour pour les joueurs violets et à dimanche prochain sur les rondes de Radio B, pour ce qui sera peut-être la dernière transmission rugbystique et de la saison et de l'histoire du rugby avec Radio B, puisque si nous sommes en Pro D2 l'année prochaine, eh bien ces retransmissions ne seront à l'évidence plus possibles, malheureusement. Voilà, allez, à toi Donovan, et à la semaine prochaine, salut.
À la semaine prochaine, merci beaucoup Serge. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end sur nos ondes et je vous laisse avec la playlist de Radio B et à la semaine prochaine pour la suite et la fin du championnat.
La minute Kiddy Clee.